RFI Midi, Alexis Guilleux.
14h14 à Paris. Il est représentant spécial de la Chine pour les affaires eurasiatiques. Li Ruoei entame une visite en Ukraine, premier déplacement de ce genre depuis l'invasion russe. C'est même une tournée européenne qu'il mènera en Pologne, en France, en Allemagne et en Russie. Bonjour Emmanuel Véron.
Bonjour.
Vous êtes géographe, spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales à l'INALCO à Paris. Alors, le but de cette visite, c'est de trouver un règlement politique au conflit. Est-ce que l'on connaît un peu mieux la feuille de route de Li Ruoei pour cette visite en Ukraine ?
À ce stade, nous ne connaissons pas les contenus dans les détails, si je puis dire, de la feuille de route de la visite. Et d'ailleurs, du groupe que dirige et préside Li Ruoei, qui est un diplomate chinois de haut niveau, qui a été plus d'une dizaine d'années, tout cumulé, hein, en fonction en Russie et ex-Union soviétique. On n'a pas le contenu concret de la feuille de route. En revanche, on sait que la Chine cherche à jouer un rôle majeur dans le dossier ukrainien depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Deuxième sujet, que la Chine souhaite être un acteur pour la construction et la reconstruction de l'Ukraine et par là même jouer un rôle fort en matière de sécurité et de diplomatie, très précisément sur le continent européen et aussi, bien évidemment, accroître ses relations commerciales et bilatérales. Donc on a un jeu comme ça qui est multidimensionnel, où la Chine est en fait en concurrence avec les Européens, avec les États-Unis sur le terrain et le territoire ukrainien.
Vous l'avez abordé, il y a un important aspect économique. La Chine a massivement investi en Ukraine ces dernières années avec ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Que représentent exactement ces échanges ? À quoi servent ces nouvelles routes de la soie ?
Oui, alors fut un temps, on a beaucoup glosé sur les fameuses routes de la soie. Il est vrai qu'il y avait plusieurs tronçons, ou au moins un tronçon qui passait, qui coupait l'Ukraine d'est en ouest, notamment à travers des axes routiers, où on avait un certain nombre de cargaisons, un certain nombre de produits qui arrivaient du Caucase ou qui arrivaient de l'Eurasie en direction de l'Ukraine, et puis après pour être redébouchés sur l'Europe occidentale. Il y a eu des infrastructures. Il y a eu des prises de participation dans des ports. Et je crois que c'est intéressant d'observer la montée
notamment
en puissance.
Notamment le port de Mariupol.
Mariupol, Odessa également, dont on parle assez peu. Et c'est intéressant de noter la montée en puissance des parts de participation chinoises dans ces ports ukrainiens, alors même que la guerre fait rage de manière de plus intense et beaucoup plus forte depuis plus d'un an maintenant. Donc on a véritablement ce volet économique, et j'allais dire presque commercial, mais aussi, et ça c'est vraiment la singularité chinoise, il y a quelques mois on ne l'attendait pas là, c'est ce vouloir être une sorte de faiseur de paix, une sorte de puissance responsable. On attend fondamentalement des choses concrètes sur ces sujets-là, puisque je rappelle qu'on est ici en concurrence forte avec la puissance américaine et la puissance européenne.
Et dans quel domaine ont eu lieu ces investissements de la part de la Chine ?
Alors, il y a eu des investissements dans les terres, dans les produits agricoles et agroalimentaires. Il y a eu des investissements dans les infrastructures. Il y a eu des investissements, y compris dans différents domaines qui recouvraient l'ensemble du spectre des fameuses routes de la soie, c'est-à-dire culturelles, diplomatiques, etc. Mais ce qui comptait vraiment, c'était l'approche sur le blé, sur l'agro, si je puis dire, agro-business, ou en tout cas sur les terres, et aussi quelques infrastructures portuaires, infrastructures de transport.
Et est-ce que la Chine a déjà à l'esprit, vous l'avez déjà un peu abordé, la future reconstruction de l'Ukraine si le conflit s'arrête, future reconstruction avec toutes ces potentielles opportunités qui pourraient se présenter ?
Oui, c'est a priori parmi les intentions qui restent à ce stade cachées de la Chine, c'est que cette volonté de là se livrer réellement une bataille avec les consortiums industriels de la reconstruction américains, voire européens, sur l'Ukraine ravagée par la guerre, et donc par la même, d'augmenter son influence infrastructurelle, son influence politique, son influence diplomatique. Alors on est sur l'ensemble de ces niveaux-là. Les choses ne sont pas encore faites, mais il est évident que la visite de Li Ruoei, je rappelle donc que c'est un haut diplomate qui connaît parfaitement toutes les questions eurasiatiques, post-soviétiques, russes, etc., bien évidemment l'Ukraine, mais aussi le Caucase, l'Asie centrale, n'a pas été nommé par hasard. Et observons aussi, dans sa visite, qui commence par Kiev, qui va se poursuivre dans les chancelleries d'Europe occidentale, Paris, vous l'avez rappelé, la Pologne, l'Allemagne, et se terminant par le pays vassalisé ou survassalisé, à savoir la Russie, à Moscou. En tout point, ils évitent de discuter avec les Britanniques, ils évitent de discuter et d'avoir une visite avec les États-Unis. Donc on sent bien qu'il y a aussi, à travers cette visite, à travers différents États, commençant par l'Ukraine, un véritable levier diplomatique contre les États-Unis et essayer de désunir fondamentalement le camp occidental sur la question ukrainienne et la guerre en Ukraine.
Une dernière question, Emmanuel Véron, il nous reste une minute. Il y a eu cet entretien téléphonique le mois dernier entre Volodymyr Zelensky et Xi Jinping. Quelle est l'attitude de Volodymyr Zelensky vis-à-vis de la Chine ?
Mais Volodymyr Zelensky est absolument pragmatique. Il a d'abord réalisé une sorte de coup de maître diplomatique puisqu'il a réussi à ramener à Pékin un ambassadeur plaigner, alors même que le précédent ambassadeur a été décédé dans des conditions assez obscures. Et donc, il y a de nouveau une haute diplomatie ukrainienne à Pékin. Et puis, Volodymyr Zelensky, à le lire et à l'entendre, cherche à avoir autour de la table toutes les puissances possibles, capables de l'entendre lui-même sur ses revendications territoriales et de souveraineté sur l'Ukraine. Et je crois qu'ils ne lâcheront pas, ils continueront d'avoir une forte ténacité et combativité. Et on verra au bout de plusieurs semaines de négociations la possibilité ou non de la Chine à fondamentalement proposer un réel plan de paix.
Merci Emmanuel Véron.
Merci.
Vous êtes géographe, spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales à l'INALCO et co-auteur de « La Chine face au monde, une puissance résistible ».